Sur l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Aujourd'hui, animée par Bertrand et Brigitte de Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez retrouver cette émission chaque lundi entre 11h et 12h, toujours évidemment sur Radio Galère. Et vous pouvez trouver des articles, un agenda et toutes sortes d'informations sur le site de l'association https://www.assopalestine13.org ou plus simplement vous tapez sur assopalestine13.org et vous avez de tout à fait notre site. Enfin, vous pouvez toujours nous écrire par courriel asso.palestine13@gmail.com. Voilà, donc le début de cette émission sera quelque peu technique, même juridique. En effet, nous avons choisi de revenir sur la saisine de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud, mais en donnant quelques explications sur les audiences de ces jours-ci qui sont liées à une saisine antérieure à celle de l'Afrique du Sud, ce qui a apporté chez un certain nombre de personnes une certaine confusion et donc on voudrait un petit peu éclaircir cela. Et une deuxième partie analysera plus les réactions des différents États au conflit et aux recommandations de la Cour internationale de justice. Alors, un bref rappel sur ce qu'est la Cour internationale de justice, la CIJ. Cette institution siège à La Haye, aux Pays-Bas, et constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. La Cour a une double mission. Elle règle, conformément au droit international, les différents d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États. Et par ailleurs, elle donne aussi des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes de l'ONU. Alors, on va aussi rappeler la différence entre la Cour internationale de justice et la CPI, la Cour pénale internationale. Vous savez que la Cour pénale internationale a été saisie par un certain nombre de juristes du monde entier à la fin de l'année 2023. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où la Cour pénale internationale, c'est une juridiction pénale internationale qui est chargée de juger les personnes, hein, donc il ne juge pas des États, il juge les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. La Cour inscrit également son action dans une dimension préventive et dissuasive. L'objectif est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires, avant que des catastrophes n'interviennent. Donc, l'édition de la Cour pénale internationale ne décharge pas les États de leur responsabilité première. Elle n'intervient que lorsque les États n'ont pas été en mesure ou n'ont pas eu la volonté de juger les crimes relevant de leurs compétences. Alors, ce n'est pas un organe des Nations Unies. Toutefois, elle s'insère dans le système international de lutte contre l'impunité, de prévention et de gestion des crises. Donc, les deux sont véritablement importants sans avoir exactement les mêmes missions. Rappelons que la Palestine a adhéré à la Cour pénale internationale le 1er janvier 2015, devenant ainsi le 123e pays membre de la CPI, ce qui lui permet désormais d'agir en qualité d'État au sein d'une organisation internationale et disposer d'un droit de vote, contrairement à Israël, qui s'oppose à cette juridiction établie par traité, est chargée de poursuivre les auteurs de crimes de masse commis depuis 2002. Et donc Israël n'a pas adhéré et ne reconnaît pas la CPI, contrairement à la Palestine.
Bonsoir. Alors venons-en aux saisines de la CIJ proprement dite. Et avant de revenir sur la saisine par l'Afrique du Sud en décembre 2023, rappelons que déjà en 2004, la CIJ avait rendu un avis consultatif clair et net contre le « mur de séparation » entre guillemets, voulu par Israël et qui constitue, selon l'institution onusienne, un élément d'opposition au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. L'avis recommandait de détruire le mur, de rembourser les dégâts et d'interdire aux entreprises de poursuivre la construction. Cet avis n'a pas été suivi d'effet, mais Israël avait mal supporté une telle mise en évidence de sa politique systématique.
Oui, peut-être que ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant, c'est que 2004, c'était vraiment les débuts du mur. C'est-à-dire que c'était facile de le détruire parce qu'il n'avait pas du tout encore été, il n'avait pas du tout le nombre de kilomètres qu'il a aujourd'hui. Et malgré ce, la CIJ n'a pas été en capacité de faire arrêter cette construction.
Oui. Et puis en décembre 2022, une requête pour avis consultatif a été déposée à la CIJ sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, fermez les guillemets. Cette saisine de la CIJ découle d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Les plaidoiries se sont déroulées entre le 17 et le 26 février de cette année. La procédure pourrait conduire la Cour internationale de justice à statuer sur la légalité de la présence israélienne dans les territoires occupés. Lors de ces audiences, la Palestine s'est exprimée par la voix du ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, qui a plaidé le lundi 19 février pour la fin, ouvrez les guillemets, pour la fin immédiate, inconditionnelle et totale, fermez les guillemets, de l'occupation israélienne, tentant ainsi de convaincre les juges de l'illégalité de l'occupation israélienne en place depuis 1967. Le droit à l'autodétermination, l'interdiction de l'apartheid et de l'acquisition de territoires par la force sont, en droit international, des normes impératives non négociables, a rappelé Riyad al-Maliki. Il n'y a aucune dérogation possible, a-t-il insisté. Le ministre a donc demandé la fin du deux poids, deux mesures. Aucun pouvoir occupant, y compris Israël, ne peut bénéficier d'un veto perpétuel sur les droits des personnes qui l'occupent. L'occupation ne peut être que temporaire, a rappelé l'avocat international Paul Reichler. Une occupation permanente est un oxymore juridique. C'est son caractère permanent qui rend l'occupation illégale. Donc si l'occupation est déclarée illégale, alors l'État hébreu devra y mettre fin, a expliqué le professeur Alain Pellet, qui est l'ancien président de la Commission du droit international des Nations unies. Démanteler les colonies, assurer le retour des Palestiniens, leur rendre leurs biens ou fournir des compensations, des regrets, des excuses. Si l'occupation est illégale, cela aura aussi un impact juridique sur les autres États et sur les organisations internationales. Ils devront s'interdire de fournir du matériel militaire et technique à Israël, assister les réfugiés et leur fournir les moyens de vivre, notamment par le biais d'organisations internationales compétentes. Et cela inclut sûrement l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, a précisé Alain Pellet. Ils devront enfin poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, et coopérer avec la Cour pénale internationale. Plus de 50 pays et 3 organisations intergouvernementales, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Organisation de la conférence islamique, ont plaidé à La Haye jusqu'au 26 février. Israël n'est pas venu, pas plus que deux de ses alliés, le Canada et le Guatemala. L'État hébreu a répondu en 5 pages à la CIJ en juillet 2023, dénonçant, j'ouvre les guillemets, une nette distorsion de l'histoire, fermez les guillemets, du conflit, et fustigeant le refus de la direction palestinienne d'accepter les offres de règlement du conflit et l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Les États-Unis, qui avaient tenté de mettre en garde la CIJ en déclarant que la question de la colonisation des territoires palestiniens ne la regardait pas, sont intervenus au troisième jour d'audience. La Cour ne devrait pas conclure qu'Israël est légalement tenu de se retirer immédiatement et sans condition du territoire occupé, a déclaré son représentant. Tout mouvement vers un retrait d'Israël de la Cisjordanie et de Gaza exige la prise en compte des besoins très réels d'Israël en matière de sécurité. Fermez les guillemets. Dans un tel contexte, comment Washington compte-t-il défendre une solution à deux États au Proche-Orient, alors que la colonisation se poursuit en Cisjordanie et à Jérusalem-Est? Pire, les États-Unis demeurent le principal pourvoyeur d'armes à Israël, sans lesquels Tel Aviv ne pourrait pas anéantir ainsi la bande de Gaza et réprimer toute contestation de l'occupation en Cisjordanie. La position états-unienne renforce Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Des parlementaires, dans un vote récent, s'affirment, ouvrez les guillemets, contre la tentative d'imposer l'établissement d'un État palestinien qui non seulement échouerait à apporter la paix, mais mettrait en danger l'État d'Israël. Fermez les guillemets. L'avis juridique des juges est attendu dans les 6 mois.
Donc là, il s'agit bien, donc ce dont on vient d'évoquer, c'est a été la saisine par des organes des Nations Unies par le biais d'une plus de 50 États, une saisine de décembre 2022, et qui ne portait pas sur les questions du génocide, mais plus sur les questions de la colonisation. Et donc les audiences, puisque vous savez que tout ça, c'est un processus très très lent, les audiences après un dépôt en décembre 2022 ne sont intervenues là que ce mois-ci, puisqu'elles se sont terminées il y a 48 heures. Donc maintenant, venons-en au 29 décembre 2023, donc un an après, la date où l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive contre l'État d'Israël, au sujet donc de ces manquements par rapport à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Donc crime de génocide en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et en même temps, l'Afrique du Sud demandait des mesures conservatoires, c'est-à-dire, c'est un peu comme l'équivalent d'un référé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des mesures urgentes à prendre. Et ce sont ces mesures conservatoires qui ont d'ailleurs été prises très rapidement au mois de janvier, comme on l'a vu. Mais sur le fond, les choses vont durer beaucoup plus longtemps pour savoir si réellement on peut qualifier de génocide ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors, dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme clairement qu'il s'agit d'un caractère génocidaire. Nous, on ne va pas revenir dans les détails, dans le sens où la saisine a déjà fait l'objet d'une émission de radio. Donc, on ne va pas revenir en détail là-dessus. Il faut juste dire peut-être que Israël a rejeté, entre guillemets, avec dégoût, les assertions de l'Afrique du Sud par la voix de son porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Hayat. Celui-ci a qualifié la requête devant le tribunal onusien de diffamation sans fondement légal, tout en assurant que son pays... Pardon. Hop là. Tout en assurant que son pays respecte le droit international dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Donc en fait, pas de souci avec Israël qui respecte absolument le droit. Et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, déclarait le 31 décembre, donc après le dépôt de la saisine, « Nous continuerons notre guerre défensive dont la justice et la moralité sont sans équivalent. » Je répète, dont la justice et la moralité sont sans équivalent. L'armée fait tout pour éviter de blesser des civils, alors que le Hamas fait tout pour leur nuire et les utilise comme boucliers humains, a-t-il ajouté. Selon lui, les forces de l'État d'Israël agissent de la manière la plus morale possible dans la bande de Gaza. Comme nous en avons déjà parlé le mois dernier quand on a parlé de cette saisine, les audiences se sont déroulées, donc les premières audiences pour des mesures conservatoires se sont déroulées les 11 et 12 janvier à La Haye, aux Pays-Bas, devant la plus haute cour des Nations Unies, donc la Cour internationale de justice, chargée d'arbitrer les différends entre États. Alors on le sait qu'il faudra des années avant que les juges de La Haye tranchent sur le fond, mais l'Afrique du Sud leur avait demandé donc de prendre d'ores et déjà des mesures conservatoires pour arrêter ces crimes en cours dans le territoire palestinien. Donc quelle a été la décision de la Cour internationale de justice, nous le rappelons, puisqu'elle s'est prononcée le 26 janvier, sur la question de savoir si Israël commet effectivement ou non un génocide. Elle ne s'est pas prononcée là-dessus, mais elle s'est prononcée sur des ordonnances d'urgence avant d'examiner plus tard l'affaire sur le fond. Elle a conclu qu'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide, a déclaré la Cour. Elle a aussi ordonné à Israël d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza. Israël doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens. La juge Johan Donoghue, qui a donné lecture de cette décision, a insisté sur son caractère provisoire qui ne préjuge en rien du futur jugement sur le fond des accusations d'actes de génocide. Elle considère cependant que les faits et circonstances rapportés par les observateurs suffisent pour conclure qu'au moins certains des droits des Palestiniens sont mis en danger et qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé. Je rappelle que ces mesures conservatoires ont été édictées le 26 janvier, que nous sommes donc à plus d'un mois et que malheureusement, nous voyons que pas une seule de ces recommandations n'a été appliquée par Israël, bien au contraire.
Alors je reprends la parole et la suite c'est que Israël a immédiatement dit qu'il ne se soumettrait pas au diktat et que la Cour n'avait aucun moyen contraignant. Israël ne veut pas détruire un peuple, mais protéger un peuple, le sien. La simple affirmation selon laquelle Israël commet un génocide contre les Palestiniens n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse. Et la volonté de la Cour d'en discuter est une honte qui ne sera pas effacée pendant des générations. L'avis des juges sur les mesures préalables pourrait néanmoins avoir une portée symbolique considérable. En effet, les décisions de la CIJ sont en fait un véritable séisme juridique et politique. Elles constituent une rupture avec les 75 années d'impunité dont avait joui le seul membre des Nations Unies, enfanté par l'organisation internationale, et qui s'était senti autorisé, protégé par ses soutiens, à s'installer dans une situation d'exceptionnalité lui permettant de se situer hors la loi et les lois internationales, de se délier, des obligations du droit commun et d'estimer qu'il n'était crédité que de droit. La CIJ affirme que le droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide est bel et bien en jeu, et qu'en conséquence, la CIJ doit ordonner des mesures provisoires. Le ministère sud-africain de la justice a eu tout à fait raison de tirer la conclusion suivante. La seule possibilité pour Israël de respecter les décisions ordonnées par la CIJ est de mettre fin à toutes ses opérations militaires. Fermez les guillemets.
Voilà, nous allons faire une petite pause musicale.
Thank you.
nous reprenons après cette pause musicale, nous reprenons l'émission « Une heure en Palestine ». Et donc, nous venions d'aborder le fait que les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice avaient un impact finalement, et auraient des conséquences assez fortes, et en tout cas, ont été vraiment un séisme juridique et politique dans le monde entier. Donc, on rappelle qu'il y a donc obligation, après ces mesures conservatoires édictées par la Cour internationale de justice, il y a donc obligation pour tous les États partis à la Convention contre le génocide de réaliser tout ce qui est en leur pouvoir afin de prévenir et d'empêcher que les actes délictueux se poursuivent et surtout que l'acte de génocide ne se produise. Cela signifie, et ce n'est pas banal, il faut bien l'entendre, que les États qui soutiennent Israël ont dès à présent l'obligation de cesser ce soutien sous quelque forme que ce soit, politique, militaire, financier, etc., et qu'ils doivent tout mettre en œuvre afin d'empêcher celui-ci de commettre les actes qualifiés par la Cour internationale comme des actes comportant des indications sérieuses selon lesquelles il s'agirait d'actes de génocide. Dans ce sens, il faut accueillir positivement les positions exprimées, y compris par certains alliés traditionnels d'Israël, tels que le Japon, la Suisse ou encore la Belgique, exigeant le respect scrupuleux de la décision de la Cour et une action du Conseil de sécurité pour l'imposer. Mais les attaques d'Israël contre l'UNRWA, rappelons que ces attaques sont intervenues exactement le lendemain des recommandations édictées par la Cour internationale de justice. Donc ces attaques contre l'UNRWA et le suivisme de nombre d'États, dont la France, ne sont pas de bon augure, alors que la Cour internationale a ordonné de permettre une aide humanitaire efficace pour les habitants de Gaza, et on voit aujourd'hui ce qu'il en est. Cette responsabilité qui incombe aux États, suite aux recommandations de la Cour internationale de justice, est renforcée par ce qui s'est appelé l'initiative Justice et responsabilité pour la Palestine. Cette initiative a été lancée après les recommandations, la saisine, le 22 janvier 2024, donc c'est tout récent. Elle marque le lancement d'une initiative internationale novatrice menée par des experts juridiques palestiniens et internationaux ainsi que de défenseurs des droits de l'homme. Ce réseau mondial décentralisé comprend des organisations juridiques, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme qui s'engagent à enquêter et à intenter des actions en justice contre des personnes et des entités impliquées dans des crimes en Palestine. Donc c'est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure que la Cour internationale de justice n'a pas de pouvoir contraignant et donc cette initiative peut permettre que de lancer des procédures juridiques contre des individus ou des États. Cette initiative a lancé un avertissement sévère aux membres des gouvernements autrichiens, français, allemands, néerlandais, les informant qu'ils pourraient être tenus individuellement responsables de leur rôle dans l'aide et l'encouragement aux crimes de guerre israéliens, aux crimes contre l'humanité ou aux crimes de génocide, du fait de leur implication dans le soutien militaire, économique et politique apporté à Israël. Nous avons parlé tout à l'heure de l'aide en armes qu'apportent les USA à Israël, mais soyons bien conscients que la France livre également des armes à Israël. Malgré les crimes horribles commis contre notre peuple à Gaza depuis les bombardements indiscriminés, les massacres, la destruction des infrastructures civiles, la famine, le déplacement forcé de la grande majorité des Palestiniens de Gaza, les fonctionnaires européens ont soutenu publiquement ces crimes de manière continue et éhontée et doivent être donc tenus pour responsables, a déclaré Roula Jamal, co-directrice de Palestinian Institute for Public Diplomacy, l'un des coordinateurs de l'initiative. Alors, on peut se demander comment a réagi la France après les recommandations de la CIJ. Et malheureusement, nous ne sommes pas très fiers de cette réaction. La France a rappelé à la Cour que le crime de génocide nécessite l'établissement d'une intention. Or, il est clair que, reprenant de nombreuses déclarations israéliennes, la Cour l'a largement prouvé, cette intention de génocide. La première réaction de la diplomatie française, à travers les propos du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ouvre les guillemets, accuser Israël de génocide dépasse le seuil moral, ce qui n'est absolument pas conforme à la gravité de la situation. Non seulement elle ne précise pas comment elle va contraindre Israël à appliquer les décisions de la Cour, mais on comprend qu'elle va contester auprès d'elle la qualification même de génocide. Alors certes, le 14 février, Emmanuel Macron a haussé le ton, mettant en cause un bilan humain et une situation humanitaire intolérable. Mais aucun projet de sanction contre Israël ne semble à l'étude, sinon à l'encontre de quelques colons extrémistes frappés d'interdiction administrative du territoire français. On sait que la France a d'abord dit qu'il y aurait des condamnations et des sanctions contre 4 colons, et je crois que maintenant c'est contre 42. Mais enfin, c'est le colon de Cisjordanie, ce sont quand même des sanctions très très faibles par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza. Et surtout quand on sait qu'il y a plusieurs milliers de soldats binationaux, franco-israéliens, plus des Français volontaires engagés dans l'action militaire à Gaza, et que sur ce point-là, la France ne prend aucune position. Il n'y a même aucun débat sur la question là-dessus en France.
Mais au-delà des réactions de notre gouvernement, il y a bien sûr des voix qui s'élèvent. Par exemple, dans le monde universitaire, le président de l'ORDIP, qui est l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, a écrit à Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, pour s'étonner que ce CNRS relance de nouveaux projets de coopération franco-israélien après l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier 2024, qui souligne les forts risques qu'Israël commette actuellement un génocide à Gaza. Dans l'échelle des crimes internationaux, rappelons que le génocide est le plus grave que l'on puisse commettre. L'ORDIP s'étonne, dans ces conditions, que le CNRS relance de nouveaux projets de coopération franco-israélien au risque de ternir à jamais sa réputation et de rendre ses chercheurs complices de génocide, risque souligné par l'ordonnance du 26 janvier 2024 et qui pourrait se confirmer dans le cadre de la décision à venir au fond de la Cour. On note par exemple que l'armée israélienne, dans sa destruction systématique de Gaza, utilise l'intelligence artificielle de manière systématique et innovante, alors même qu'il s'agit de l'une des priorités de la coopération franco-israélienne. On s'interroge alors sur la responsabilité des chercheurs français qui ont collaboré avec des équipes israéliennes sur ce sujet. Et l'ODIRP poursuit, il serait temps également que le CNRS regarde ce qui se passe du côté palestinien et en tire les conséquences. Les Palestiniens aussi ont des universités et des centres de recherche. Du moins, ils en avaient, jusqu'à ce que l'armée israélienne entreprenne de raser systématiquement la bande de Gaza. Dans le document de 84 pages déposé par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, on relève ceci. Soufiane Taïe, président de l'université islamique, physicien primé, titulaire de la chaire UNESCO pour l'astronomie, l'astrophysique et les sciences spatiales en Palestine, qui a été tué avec sa famille par une frappe aérienne. Ahmed Hamdi Abou Absa, qui est le doyen du département d'ingénierie logicielle de l'Université de Palestine, qui aurait été abattu par des soldats israéliens alors qu'il repartait à pied après avoir été libéré au bout de 3 jours de disparition forcée, ainsi que Mohamed Eid Shabir, professeur d'immunologie et de virologie, ancien président de l'Université islamique de Gaza, et Refaat Al-Arir, poète et professeur de littérature comparée et de création littéraire à l'Université islamique de Gaza. Tous deux ont été tués en même temps que des membres de leur famille. Ceci, c'était le 28 décembre 2023. Et depuis, la situation n'a fait qu'empirer. On compte aujourd'hui, 31 janvier...
C'est le jour de la déclaration de l'ordre de la lettre envoyée au CNRS.
Donc, on peut faire les corrections approximatives à la date d'aujourd'hui. Donc, on comptait... Le 31 janvier, 94 professeurs d'université tués à Gaza. Le dernier en date étant le professeur Abu Hayn, psychologue renommé, abattu par un tireur d'élite israélien. Il n'y a pas que les missiles.
Les snipers.
Les snipers, ne tirent pas forcément au hasard. On compte aujourd'hui 30...
Dans toutes les universités.
Toutes les universités de Gaza, sans exception aucune, ont été détruites, avec leurs bibliothèques, leurs lieux de culte, églises et mosquées, les monuments archéologiques et jusqu'au cimetière. La destruction du patrimoine scientifique et culturel de Gaza, sans aucun intérêt militaire, ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée. À telle enseigne que le professeur israélien Niamh Gordon n'hésite pas à parler d'élucide, entre guillemets, destruction du système éducatif. Éducide. Ça devient plus clair. Le CNRS ne pourrait-il pas s'émouvoir de la destruction de tout un patrimoine scientifique et culturel et de l'extermination des enseignants et des chercheurs? Le CNRS devrait se conformer à l'ordonnance de la Cour internationale de justice et mettre fin à toute coopération scientifique avec Israël.
Alors c'est vrai que je trouve que cette lettre est très intéressante parce que ce sont des universitaires qui s'adressent à leurs pairs quelque part, des chercheurs du monde scientifique, et qui les mettent devant leurs responsabilités. Donc je pense que c'est vraiment un témoignage vraiment intéressant. Mais d'autres gouvernements, comme la France, refusent de reconnaître qu'il y a un génocide. Donc nous donnerons quelques exemples. Le gouvernement allemand a augmenté l'aide militaire et a promis un soutien économique et politique indéfectible à Israël, alors qu'il poursuit ses bombardements incessants sur la bande de Gaza. Même lorsque le nombre des Palestiniens tués à Gaza a dépassé les 10 000 5 semaines après le début de l'attaque brutale d'Israël, le chancelier Scholz a continué à s'opposer à un cessez-le-feu. Je ne pense pas que les appels à un cessez-le-feu immédiat ou à une longue pause, ce qui reviendrait au même, soient justes, déclarait-il. Et ce qui est intéressant, c'est que cette attitude du gouvernement allemand est conspuée par la Namibie. Pourquoi la Namibie ? En effet, la réponse de la Namibie à la décision de l'Allemagne de soutenir Israël dans l'affaire de la Cour internationale est révélatrice. Le gouvernement namibien rappelle que l'Allemagne avait commis le premier génocide du XXe siècle sur le sol qui aujourd'hui s'appelle la Namibie, en massacrant 70 000 Hereros et Namas, qui étaient des peuples pasteurs, exterminés pendant la guerre coloniale allemande entre 1904 et 1908. Et la déclaration namibienne poursuit. L'Allemagne ne peut pas exprimer moralement son engagement envers la Convention des Nations Unies contre le génocide, y compris l'expiation du génocide en Namibie, tout en soutenant l'équivalent d'un holocauste et d'un génocide à Gaza. Donc là aussi, ça souligne quand même également la guerre coloniale qui se mène actuellement. Dans le même temps, le gouvernement néerlandais a donné son feu vert à l'exportation d'équipements militaires vers Israël pendant cette période actuelle de génocide. tandis que les fonctionnaires autrichiens et français, par des déclarations et des visites, ont manifesté un soutien inconditionnel à la campagne de bombardement d'Israël et peuvent légalement être tenus responsables de complicité des crimes de guerre. Autre pays dont on va parler comme étant des soutiens, c'est la Belgique. L'Office des étrangers, alors ça dépasse l'entendement, l'Office des étrangers a envoyé à certaines communes de Belgique un courrier demandant le retrait de la nationalité belge à des enfants nés en Belgique de parents palestiniens. Alors que la Belgique n'a toujours pas reconnu la Palestine en tant qu'État. Donc, en refusant ou en retirant la nationalité belge à ces enfants, la Belgique leur fabrique donc un statut d'illégalité, éthiquement injustifiable et juridiquement infondé. La position de la Belgique est kafkaïenne, puisqu'elle considère que ses enfants ont la nationalité d'un État qu'elle ne reconnaît pas. Et qu'en est-il de la politique migratoire à l'égard des Palestiniens primo-arrivants en Belgique ? Donc, comme on voit un peu dans tous les pays, c'est à la marge, mais il y a quelques Palestiniens qui arrivent à sortir de Gaza et qui arrivent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que 2 mois après le début de la guerre, la Belgique n'avait toujours pas mis en œuvre des moyens d'évacuation des personnes ayant un titre de séjour belge, ni proposé un assouplissement des procédures d'obtention de visa humanitaire ou de regroupement familial. Donc, par ces quelques exemples d'États qui ont soutenu Israël, on peut voir qu'un mélange de culpabilité historique et d'intérêts stratégiques pousse ainsi de nombreux pays et médias à lire l'oppression palestinienne comme une dérive accidentelle et non comme une réalité devenue structurelle.
Mais d'autres pays ont des réactions différentes.
Heureusement.
La Cour internationale de justice sait pouvoir compter sur le soutien d'États qui, eux aussi, ont dénoncé le génocide en cours. L'Algérie, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, Cuba, l'Iran, la Turquie ou encore le Venezuela. Autant de pays dits du Sud ou encore sur l'appui des experts, y compris ceux de l'ONU, qui ont été nombreuses et nombreux à alerter sur le risque génocidaire. Alors, on va maintenant citer de façon relativement plus détaillée 3 pays. Les Pays-Bas, d'abord, où la Cour d'appel de La Haye, le lundi 12 février, a donné raison à des organisations de défense des droits humains. Dans sa décision, le tribunal néerlandais a ordonné à l'État de cesser toute exportation et transit réel de pièces de F-35 vers la destination finale Israël dans les 7 jours suivant la signification de ce jugement. Selon la Cour, ces pièces risquent d'être utilisées dans des actions qui violent le droit humanitaire international, comme des frappes contre les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le Japon, compte tenu de l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier et du fait que le gouvernement japonais soutient le rôle de la Cour, la présidence de l'unité japonaise d'aviation Ditoshu Corporation a déclaré avoir déjà suspendu les nouvelles activités liées au protocole d'accord avec la société de défense israélienne Elbit Systems Limited, et prévoit d'y mettre fin d'ici la fin du mois de février. Enfin, l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains qui souhaitent rejoindre les forces de défense israéliennes seront poursuivis pour avoir enfreint la loi. Tiens. Pretoria souhaite ainsi prévenir l'hypothèse, pour ses citoyens, d'une complicité involontaire dans des crimes internationaux ou des violations du droit sud-africain. Les citoyens naturalisés pourraient même être déchus de leur citoyenneté en cas de contravention à ces recommandations. La participation à la guerre contrevient à la loi sud-africaine sur l'interdiction des activités mercenaires et la réglementation de certaines activités dans les pays en conflit armé. Cette loi réglemente notamment l'enrôlement de citoyens ou de résidents permanents dans d'autres forces armées. Cette position fait réagir en Israël, car on estime que 50 000 juifs vivent en Afrique du Sud.
Ouais, nous allons faire une brève pause musicale.
من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا. أنا مثلكم أو أقل قليلا، ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات. ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي مصادفة، وانتميت إلى عائلة مصادفة، وورثت ملامحها والصفات وأمراضها. أولاً خللاً في شرايينها وضغط دم مرتفع، ثانياً خجلاً في مخاطبة الأم والأب والجدة الشجرة،
C'est toi
c'est... Non, c'est toi qui prends.
Alors, dans le monde international, la guerre en cours et les décisions de la Cour internationale de justice ont modifié les perceptions sur Israël et sur la Palestine, et cela nous semble un point très, très important. L'affaire de Gaza, devant la Cour internationale de justice, a contribué à élargir les fractures autour de la mythologie fondatrice d'Israël. Pour ce que beaucoup d'Occidentaux savent d'Israël, c'est qu'il a été créé après l'Holocauste, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le monde cherchait à établir des normes internationales pour empêcher que des crimes d'une telle ampleur ne se reproduisent. Ces caractéristiques, ancrées dans pas mal de têtes du monde occidental, ont contribué à créer un sentiment d'exceptionnalisme israélien fondé sur la souffrance du peuple juif. Cela a permis à ses dirigeants d'ignorer ce qu'ils faisaient subir aux Palestiniens, et une grande partie de la communauté internationale a suivi le mouvement. L'occupation et l'assujettissement des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, couvre-feu, points de contrôle, routes de contournement, démolition de maisons, expulsions, violences, assassinats ciblés, saisies de notaires, arrestations, détentions arbitraires, etc., ont été largement ignorés par les acteurs politiques mondiaux influents. Pourtant, aujourd'hui, la destruction de Gaza et les horribles pertes humaines sont scrutées par des millions de personnes à travers le monde, dont beaucoup sont descendues dans la rue pour exiger un cessez-le-feu immédiat. L'image soigneusement construite d'un Israël libéral édifié par les survivants de l'un des plus grands crimes de l'histoire s'est fracturée. Malgré les horreurs des attaques du 7 octobre, la mort et la dévastation à Gaza ont à nouveau mis en lumière les Palestiniens apatrides en tant que victimes. Le conflit a également redéfini l'image d'Israël. Son occupation et sa colonisation des terres palestiniennes, tout comme ses politiques d'apartheid, que même les juristes israéliens reconnaissent aujourd'hui, sont de plus en plus considérés comme les vestiges d'une époque coloniale révolue. Donc, quelle que soit la décision de la Cour internationale de justice, il est difficile de voir comment le monde pourra fermer les yeux sur les excès d'un pays qui a souvent semblé être jugé selon des normes de comportement différentes de celles des autres pays.
Et la plainte sud-africaine à la Cour internationale de justice a déjà commencé à ébranler certains citoyens d'Israël. Malgré la désinformation qui règne à l'intérieur du pays et la répression contre tous ceux qui remettent en cause l'agression contre Gaza. Ainsi, une lettre de citoyens israéliens a été envoyée à la Cour en soutien à la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour accusant Israël de génocide à Gaza. Nous, citoyens israéliens, dans l'obligation de prévenir un génocide, vous écrivons pour exprimer notre soutien aux démarches de l'Afrique du Sud devant la Cour, déclarant que la conduite d'Israël à Gaza viole ses responsabilités en vertu de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. Les éléments qui ressortent de la demande de l'Afrique du Sud sont horribles et crédibles. Israël prend des mesures systématiques pour anéantir la population de Gaza, pour l'affamer, la maltraiter et la déplacer. Il met en œuvre une politique qui inflige délibérément des conditions de vie calculées pour provoquer sa destruction physique en tant que groupe. Il tue systématiquement de larges pans de sa population, d'éminents universitaires, écrivains, médecins, du personnel médical, des journalistes et des citoyens ordinaires. Cette lettre était signée par plus de 700 citoyens au 9 janvier, alors que la répression envers les personnes qui critiquent l'action israélienne est importante. En témoignent les réactions contre le député d'extrême gauche, Olef Kassif, qui s'est joint au procès pour génocide devant la Cour. Un processus de destitution parlementaire a été engagé contre lui. Membre de la Knesset, il représente le parti Hadash sur la liste unifiée dont il est le seul député juif. Bon, venons-en à la conclusion. La démarche de l'Afrique du Sud redonne toute sa place au droit international. La France s'est engagée à respecter les décisions de la Cour internationale de justice. Il faut donc passer aux actes maintenant. Il faut contraindre Israël à respecter les ordonnances de la Cour. C'est une obligation autant juridique que morale. Il ne suffit pas de rappeler à Israël qu'il doit se conformer au droit. Il faut le lui imposer, comme il faut lui imposer par tous les moyens le cessez-le-feu, y compris par des sanctions. Et en tout premier lieu, cesser de vendre des armes à Israël, déclare la FPS.
Alors, nous allons rester là et on va terminer par les quelques minutes qui nous restent avant la fin de l'émission par quelques annonces comme à chaque émission. Donc, nous rappelons, nous informons déjà que tous les mercredis, à partir d'aujourd'hui, c'est le premier mercredi, à Aix, il y aura tous les mercredis soirs une veillée pour Gaza devant la mairie à 18h. Donc, c'est trop tard pour ce soir, mais sachez que tous les mercredis à 18h. Il semblerait qu'on s'oriente peut-être vers quelque chose d'identique à Marseille, sous l'Ombrière, au même jour, à la même heure, mais on vous précisera cela, et sinon vous pourrez le voir sur l'agenda de Palestine 13. Rappelons qu'à Marseille, chaque dimanche, à 14h, à la porte d'Aix, il y a un rassemblement de soutien à la Palestine. Également, nous informons de le samedi 2 mars, donc samedi prochain, au Vidéodrome 2, sera projeté le film documentaire « La clé du sol » de Muriel Jacoub, à l'initiative de différentes associations, MACPAL, BDS Provence, en partenariat avec le Festival Ciné-Palestine, soutenu par le collectif Palestine en résistance, et donc évidemment par Palestine 13, puisque nous sommes membres du collectif. Une date importante aussi, c'est le lundi 11 mars, est déclarée journée mondiale d'action contre les entreprises d'armement complices du génocide. Donc là, c'est une initiative internationale contre les entreprises d'armement. On ne sait pas, comme on vient de l'apprendre il n'y a pas longtemps, on ne sait pas trop qu'est-ce qui sera pris comme initiative sur Marseille. Mais on peut déjà vous annoncer que le collectif Palestine en résistance travaille à la préparation d'une conférence sur les liens entre la France et Israël en matière d'armement. Et vraisemblablement, cette conférence se tiendra en avril, mais nous vous tiendrons au courant à mesure des émissions sur Radio Galère. Autre information... le ciné solidaire. Donc, vous savez que c'est dans les locaux du syndicat solidaire, il y a des cycles de cinéma un cycle de cinéma sur la Palestine. Et le vendredi 15 mars, alors là, ce sera mixte, pas seulement du cinéma. Donc, le 15 mars à 19h, dans les locaux de solidaire au 29 boulevard Longchamp, la poésie, une arme de résistance massive avec les instants vidéo numériques et poétiques. Hein. Donc, sur la poésie, une arme de résistance massive. Et ce sera suivi, toujours le même soir, d'une mémoire contre l'oubli de Marie Géniès. Enfin, depuis plusieurs années, avait lieu en mars une semaine contre l'apartheid en Israël, qui cette année s'est transformée en un mois. Donc il y a eu pas mal d'initiatives ont été prises sur Aix-en-Provence, à l'initiative surtout d'étudiants, qui vont avoir des initiatives toutes les semaines, et également des étudiants à Saint-Charles. Donc, ce dont nous sommes au courant à ce jour, c'est que le 18 mars à 18h à la faculté Saint-Charles, il y aura une initiative sur résistance palestinienne. Et toujours à Saint-Charles, le lendemain, le mardi 19 mars, il y a une initiative de vente de broderies palestiniennes. Voilà, donc là, à mesure, on vous précisera plus clairement ces initiatives. Et nous rappelons que sur le site de Palestine 13, il y a un agenda où tout ce qui se fait, pas du tout uniquement de Palestine 13, mais par toutes les associations de soutien à la Palestine, sont mentionnés dans cet agenda pour que vous puissiez donc suivre régulièrement ce qui vous est proposé. Voilà, donc nous avons terminé l'émission Une heure en Palestine. Nous vous rappelons que vous pouvez la réécouter le lundi entre 11h et 12h. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour mercredi prochain à 18h. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir. Bintisha.